l'invité du jour.
Tout juste 7h45, merci de nous être fidèles. Nos invités du jour ce matin sont des élus au conseil municipal de Montluçon. Frédéric Cotte, bonjour.
Bonjour.
Philippe Buva, bonjour.
Bonjour.
Donc au sein d'un même groupe, hein, au sein du conseil municipal. Évidemment que l'actualité de ce début de semaine, c'est l'officialisation, on le savait un petit peu depuis quelques temps, mais du départ donc de Daniel Duglery, de son poste de maire en cours de mandat. Déjà, j'ai envie de vous demander ce que vous en pensez, tout simplement.
Première chose, s'agit-il vraiment d'un départ? Moi, je qualifie ça de faux départ, puisque M. Duglery va garder l'essentiel des manettes, il va rester président de Montluçon Communauté, président du pays, président de Montluçon Habitat, président du conseil de surveillance du centre hospitalier. Je crois que ça fait beaucoup pour quelqu'un qui fait semblant de partir. Il s'agit plutôt d'essayer de mettre sur le devant de la scène un successeur pour des raisons politiciennes, il l'a dit lui-même d'ailleurs, afin de préparer les prochaines élections municipales.
Philippe Buva.
Pour moi, c'est une manipulation et puis une rupture de contrat. Le contrat qu'il avait passé avec les Montluçonnais, voilà, il avait été élu et moi je comprends pas bien pourquoi il va pas au bout de son mandat.
Vous le regrettez?
Quand on est élu maire de Montluçon, c'est une charge lourde. Quand on a reçu la confiance de ses concitoyens, on se doit, sauf problème de santé, ce n'est pas le cas, enfin je l'espère, mais j'en suis quasiment sûr, ou sauf problème de cumul des mandats, ce qui n'est pas le cas, on se doit d'aller jusqu'au bout de son mandat et d'honorer la confiance de ses concitoyens. C'est une rupture de contrat que nous jugeons très défavorablement.
Et il a aussi expliqué donc effectivement cette volonté de préparer 2020, mais aussi il l'a évoqué un moment, un temps peut-être d'avoir un petit peu plus de temps pour sa famille, pardon. Est-ce que ça vous pouvez le comprendre?
Parfaitement le comprendre, sauf qu'il y a quelques semaines il était candidat aux élections législatives et il n'était pas vraiment dans cette configuration d'esprit. En tout cas, nous l'avons compris comme tel.
Et puis, si on veut consacrer du temps à sa famille, on peut aussi éviter de cumuler la multitude de mandats que Daniel Duglery avait.
Pour vous, il aurait fallu qu'il parte de toutes ses fonctions, sachant qu'il a expliqué qu'il voulait aussi faire le lien, conseil régional, président de l'agglomération. Il aurait fallu qu'il parte, selon vous?
Pour nous, Montluçon est en difficulté. Montluçon connaît des problèmes récurrents. Nous avons peut-être l'occasion d'en parler, même si le moment n'est pas venu encore de faire le bilan de l'action de M. Duglery, puisqu'il ne part pas vraiment. Montluçon a besoin d'un exécutif fort, a besoin d'un maire qui soit légitime. On pourra y revenir, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas, vu la configuration à la fois du départ ou du faux départ de Daniel Duglery et d'autre part de la faible confiance qu'ont envers le successeur les membres de sa propre majorité.
Alors, effectivement, ça a été partagé, hein, le vote dans un vote interne. Justement, le nom de Frédéric Laporte, vous, il vous inspire quoi?
Ça a été partagé. Normalement, nous n'aurions pas dû savoir tout ça. En général, ce sont des affaires internes et c'est le fait que ce soit sur la place publique, énoncé même par Monsieur Duglery, ça montre qu'il y a un malaise et un malaise fort. Le successeur annoncé a été désigné par 13 voix. Ils sont 30 dans leur groupe.
Oui, hein. C'est ce qu'il a expliqué. C'est qu'il y en a qui n'ont pas choisi.
Il a la confiance de 13 de ses colistiers sur 30. Hein. D'ores et déjà, c'est un maire affaibli qui va se présenter devant le suffrage des conseillers municipaux le jeudi 14.
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la confiance des autres, peut-être. Simplement que, voilà, ils sont quand même issus d'un même groupe, d'une même majorité.
En tout cas, Montluçon, eu égard à ses difficultés, a besoin d'un maire qui soit légitime et fort. Et je ne pense pas que ce soit très bien.
Bon, comment vous allez vous positionner, vous, au sein de votre groupe, le 14 décembre prochain, donc avec cette élection?
Il est clair que leur majorité est écrasante. Je vous rappelle que compte tenu du type de scrutin, la liste qui gagne, elle est trois quarts des conseillers municipaux. Donc n'attendez pas un suspense insoutenable. On va y réfléchir entre nous. Il y aura deux cas de figure. Soit nous ne présentons personne et ne participons pas au vote, soit nous présentons une ou un candidat pour marquer symboliquement notre désaccord avec la manipulation qui va se dérouler.
Aujourd'hui, c'est pas tranché ça, si vous présenterez quelqu'un ou pas?
Ça n'est pas tranché parce qu'il faut que nous en discutions avec l'autre groupe de gauche. L'idéal serait de présenter un candidat commun, donc c'est en réflexion.
Il peut y avoir aussi une réflexion avec le groupe d'Abdou Diallo, pour que ce soit d'une manière générale au sein de l'opposition.
J'ai dit de gauche.
D'accord, bon. Chacun pourra réfléchir à cette phrase. Bon, rendez-vous le 14 décembre prochain. En tout cas, évidemment, vous ferez ce type d'intervention. Vous réexpliquerez que vous n'êtes pas d'accord avec cette décision de Daniel Duguerry.
Oui, nous exprimerons notre point de vue en sachant qu'un tel conseil est très formel. Vous verrez, l'élection du maire, l'élection des adjoints, la répartition dans les commissions et les organismes municipaux. Les choses se font de façon très, très organisée et laisse peu de place au débat. C'est pour ça que nous vous remercions de nous avoir invités ce matin pour exprimer plus longuement notre point de vue.
Ouais, tout le monde a la parole, évidemment, sur cette antenne. D'ici la fin de l'année, il y aura aussi le débat d'orientation budgétaire. Vous le voyez comment, l'un et l'autre, ce débat d'orientation budgétaire, préparation du budget 2018?
C'est un peu, ça s'annonce de manière un petit peu surréaliste. D'un côté, et c'est vrai, on nous rappelle que les collectivités territoriales n'ont plus d'argent, que le désengagement de l'État a atteint un niveau tel qu'il devient insupportable. Et d'autre côté, on nous annonce la construction de parkings à 1 million d'euros, la création d'équipements supplémentaires sans débat préalable, sans que les élus aient été informés, à 8 millions d'euros. Donc il va falloir que le nouvel exécutif précise un petit peu à la fois sa pensée, ses positionnements, et nous dise quelle est la réalité des marges de manœuvre. Parce que si on est capable de mettre autant d'argent sur de l'investissement, ça veut dire que d'autres choix peuvent être possible, en tout cas pour s'occuper des Montluçonnais et pour aménager la ville différemment.
Vous parlez de la médiathèque, hein, quand vous parlez notamment de nouveaux équipements, le fait que la ville puisse bénéficier de larges subventions en matière d'investissement, ça, c'est pas, vous dites pas, ça peut être quelque chose de positif pour aller construire quelque chose en direction de la culture en plus?
On ne peut pas être défavorable à un équipement culturel. Comme nous, quand nous avons quitté le dernier conseil municipal, tout le monde marchait un petit peu sur l'eau. On nous avait annoncé un taux de subventionnement exceptionnel, puis on a rapidement déchanté, puisqu'il apparaît que la subvention de l'État est à hauteur de 40%. Donc attendons. Hein. Bien entendu, quand des gens de gauche ne peuvent être que favorable au développement du territoire par la culture, mais on n'achète pas un âne dans un sac, et si on n'a pas les moyens de faire fonctionner un tel équipement, il faut y réfléchir à deux fois.
C'est la méthode aussi qui pose question, c'est-à-dire qu'on a un emplacement dans la ville, et en termes d'urbanisme, c'est très largement ce qui s'est fait ces dernières années, on a une dent creuse, donc on trouve une source de subventionnement pour faire quelque chose. Et c'est une mauvaise façon de monter les projets. Et moi, je m'interroge aussi sur la cohérence du positionnement de cette médiathèque là-bas, avenue de l'Europe, alors que de ce côté-ci, de l'autre côté du Cher, on n'aura plus grand-chose, quoi, encore une fois.
Mmh. Justement, sur le Cher, ça y est, c'est parti hein, pour les travaux d'aménagement des berges du Cher. J'imagine que vous, Philippe Buva, notamment, en tant qu'élu écologiste, vous êtes très attentif à ce qui se passe.
Je suis très très attentif, notamment sur la place des circulations douces, sur l'aménagement de la ville, la cohérence globale du projet. Ouais. Effectivement, là, il est légitime, c'est un bon projet. Reste à savoir comment concrètement, effectivement, les circulations douces vont pouvoir prendre leur place.
Vous avez été rassuré là sur les premières annonces, sur ce qu'on vous présente?
Plus ou moins. J'aimerais qu'on puisse laisser un petit peu plus la place à la créativité des architectes et des urbanistes. Mmh. Hein, j'ai peur encore une fois que la bagnole trouve encore bien sa place à Montluçon.
Frédéric Cotte, vous souhaitiez
réagir? Oui, nous sommes des élus d'opposition, mais nous sommes des élus constructifs. C'est un bon projet pour l'attractivité de Montluçon, pour le bien-être des Montluçonnais, mais c'est un bon projet à condition qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'aménager les berges du Cher. Il y a tout un projet de réurbanisation. Il faut qu'on s'occupe du centre-ville, du cœur de ville traditionnel, un certain nombre de quartiers sont également concernés. Si on se contente de faire de l'aménagement urbanistique le long des berges du Cher, ce sera bien, mais ça ne répondra pas au cahier des charges. Donc nous serons très vigilants, et le fait que d'autres projets à coût de millions d'euros apparaissent alors que nous n'avons plus d'argent, ça nous inquiète quelque peu sur la volonté municipale de mener à bout le projet d'aménagement Cémont-Luçon.
Il nous reste 30 secondes, Frédéric Cotte. Une question à vous par rapport au Parti Socialiste. Où est-ce qu'on en est de votre Exclusion, vous avez du nouveau ?
Je suis toujours membre du Parti Socialiste, voilà. Absolument. Non, entre nous, soit dit, je suis venu là pour parler de Montluçon et Montluçon.
Je pose la question
quand
même.
Il
nous restait 30 secondes. Hein,
c'est ce qui est mon cœur de positionnement, c'est ce qui me motive tous les jours. Le reste, ce n'est que de la cuisine.
Frédéric Cotte, Philippe Buva, merci d'avoir été avec nous. 7h55, on continue direct dans un instant.
L'invité du jour.